Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous et bienvenue, et nous allons d'abord nous intéresser à la maladie d'Alzheimer, ou plutôt aux conséquences sociales de cette forme de démence sénile, car d'après de nombreuses études médicales, le nombre de personnes souffrant de ces pathologies double désormais tous les 20 ans. En Autriche, on dénombre environ 130 000 cas. La maladie est un défi pour les familles, le personnel soignant, mais aussi pour la police. Que faire face à des personnes au comportement inhabituel ou désorienté? Les responsables autrichiens sont à la recherche de solutions, et c'est un reportage à Vienne de Céline Béal.
Vous avez beaucoup de choses à raconter?
Non,
oui.
C'est la vie normale.
Il faut parler en allemand avec moi, je ne comprends pas le français.
So, Achtung, da, geht's. Bitte schön. Passt das?
Ja.
Visite de voisinage de policiers dans un accueil de jour pour personnes souffrant de démence liée à l'âge. Lorsqu'au milieu de la conversation, une dame commence à parler en français, une langue qu'elle a apprise dans sa jeunesse, plutôt qu'en allemand, les inspecteurs sourient. Mais ce n'est pas toujours aussi simple. Rencontrer une personne souffrant de la maladie d'Alzheimer complique souvent les enquêtes, terriblement. L'inspecteur divisionnaire Rudolf Moser explique que le quartier résidentiel de Liesing, à la périphérie de Vienne, compte de nombreuses maisons de retraite et beaucoup de maisons occupées par des personnes âgées. Leurs occupants appellent parce qu'ils croient avoir été volés. D'autres, au contraire, vont faire des courses, mais oublient de passer à la caisse. Mais surtout, beaucoup de personnes âgées s'égarent sur le chemin de la maison. La directrice de l'accueil de jour de la Caritas Socialis, Petra Hausteiner, explique que certaines personnes qui viennent au centre souffrent de désorientation chronique.
Si une de ces personnes veut rentrer chez elle, par exemple parce qu'elle a la sensation que son enfant l'attend, qu'il vient de rentrer de l'école, et même si ce n'est pas vrai, parce que cet enfant a en réalité déjà 60 ans, alors cette personne veut vraiment partir. Si on retenait cette personne contre son gré, ce qui ne se fait en fait plus du tout, alors elle essaierait quand même de sauter par la fenêtre, parce qu'elle veut sortir.
En leur parlant et surtout en les écoutant, Petra Hausteiner parvient à éviter que ses protégés ne se retrouvent perdus sur la voie publique. Cela arrive cependant à d'autres. C'est pour savoir comment agir dans ce cas que la police du quartier entretient un contact de voisinage avec des établissements comme celui-ci. Et puis, au commissariat de Liesing, tous les agents ont suivi une formation sur Alzheimer. Une formation dispensée en ligne, en une heure ou deux, avec un module interactif, des petits tests et des vidéos. On apprend à repérer qu'une personne souffre de démence, comment lui parler sans la braquer, et à trouver des solutions créatives pour éviter de finir à la case hôpital. Ainsi, le jeune inspecteur Michael Kobolz explique qu'il commence par rassurer son interlocuteur en lui demandant son prénom.
Ensuite, si la personne ne sait plus où elle habite, on peut par exemple l'accompagner ou la ramener en voiture. On fait le tour du quartier en regardant les maisons, on lui demande de quelle couleur est la sienne. Bien sûr, cela peut prendre du temps, mais à la fin, on trouve bien le domicile et on a atteint notre but.
C'est toujours mieux que de devoir lancer des recherches de grande envergure si un individu se perd totalement.
On a eu un cas où une personne s'est retrouvée à Rome, après être partie de Vienne.
La formation en ligne suivie par l'inspecteur Gobol et ses collègues a été conçue par l'Académie de la Sécurité du ministère de l'Intérieur, sous la houlette du docteur Stéphanie Auer. Professeure en psychologie, elle dirige le département d'études sur la démence à l'Université du Danube, à Krems, 70 km de route de la capitale. Elle est aussi la conseillère scientifique de la MAS Alzheimer, une association qui représente les patients.
Nous avons eu un cas dramatique où une personne qui était recherchée n'a été retrouvée qu'une fois décédée. À ce moment-là, nous nous sommes dit qu'il fallait absolument informer la police sur ce phénomène important dans notre société qu'est la démence, pour qu'à l'avenir, les personnes touchées puissent être vraiment intégrées.
C'est suite à ce cas tragique, mais pas unique, que le ministère de l'Intérieur a accueilli positivement la proposition de l'association. Depuis l'année dernière, 6400 gardiens et gardiennes de la paix ont été formés dans le cadre de l'opération Démence. Ils savent maintenant qu'en cas de disparition de personnes âgées, alors que les jeunes reviennent souvent dans les 24 heures, il est impératif de lancer tout de suite des recherches. En matière de prévention comme de communication, beaucoup des comportements préconisés vont à l'encontre des habitudes policières. Mais il faut relever ce défi pour le docteur Auer. Car il n'est plus possible de seulement enfermer les patients Alzheimer.
Nous pouvons le relever si nous considérons leur intégration comme un devoir pour la société et si les pouvoirs publics prennent les mesures nécessaires.
La professeure rêve donc de former plus seulement les policiers, mais aussi les pompiers, les professionnels de la santé. Et puis tout un chacun finalement, car tous peuvent être en contact avec cette maladie.
In our last episode of Bitcoin, the giant Bitcoin ETF created by those two fancy Facebook twins.
Mais oui, on entend beaucoup parler de Bitcoin ces derniers mois, cette fameuse devise virtuelle dont la valeur peut atteindre des sommets. À la fois simple dans son principe et très technique dans son fonctionnement, cette monnaie alimente les pires craintes, c'est le refuge des activités criminelles, mais aussi les plus grands espoirs, comme en Islande. L'île polaire est même devenue le paradis des mineurs de bitcoins, car contrairement au dollar ou à l'euro, le bitcoin n'est pas émis par des banques centrales, mais miné, créé dans des fermes informatiques qui nécessitent des serveurs très puissants et énergivores. Jérémy Richard s'est rendu dans une ferme de minage, celle de Genesis Mining, l'une des plus grandes au monde.
Au cœur des champs de la Vislandais, à quelques dizaines de kilomètres de la capitale, Reykjavik, se dressent quatre hangars en tôle argentée d'apparence anodine. L'endroit est clôturé, copieusement vidéosurveillé et sa localisation exacte tenue secrète. Chaque bâtiment et les équipements qu'ils contiennent ont coûté plusieurs millions d'euros. À l'intérieur, 300 mètres carrés d'un vacarme semblable à celui d'un avion au décollage, produit en cœur par des dizaines de milliers de stations de minage, rouages essentiels à la création des crypto-monnaies. Philippe Salter est chef des opérations chez Genesis Mining, l'une des plus grandes sociétés de minage au monde.
Nous avons donc ici un certain nombre de cartes graphiques avec une grosse puissance de calcul. Les machines sont construites de telle sorte qu'elles sont optimisées pour le minage de crypto-monnaies. Et c'est pour cela que le matériel est un peu différent des configurations conventionnelles.
Derrière le terme de minage, qui évoque la ruée vers l'or, se cache un processus techniquement complexe. Une station de minage est ainsi une sorte d'une unité centrale dotée du strict minimum en termes d'informatique, une carte mère, une mémoire RAM, un disque dur, un processeur et 6 cartes graphiques, le tout alimenté par une batterie de câbles interconnectés et une clé USB pour exécuter le logiciel de calcul, le puzzle mathématique qui crée la monnaie virtuelle. Cette technologie s'appelle la chaîne de blocs. Et Philippe Salter explique succinctement son procédé.
L'idée de la blockchain, la chaîne de blocs, c'est d'essayer de trouver le bloc le plus récent à placer au sommet de la chaîne, afin de la construire bloc par bloc. Ce processus s'appelle le minage. Les gens s'envoient des transactions en permanence, les uns aux autres sur Internet, et le mineur confirme que ces transactions se déroulent correctement. Une fois validées, elles sont ainsi regroupées en blocs, puis, grâce à un algorithme, dans la chaîne de blocs.
Le travail d'assemblage, indispensable au fonctionnement du Bitcoin, mais aussi d'autres monnaies virtuelles comme Ethereum ou Zcash, qui reposent sur ce même procédé, est récompensé par le système lui-même qui rémunère le mineur. Actuellement, 12 bitcoins et demi sont produits toutes les 10 minutes dans le monde. Sa valeur unitaire s'établit aujourd'hui à un peu plus de 6 000 euros contre 16 000 lors de son pic mi-décembre. Genesis Mining en a ainsi fait une affaire. La société loue de la puissance de calcul à des clients. Elle en compte plus d'un million qui font le choix de ne pas miner avec leur ordinateur personnel.
C'est possible pour n'importe qui de miner des crypto-monnaies à la maison. Il n'y a aucune entrave légale ni limite technique. Mais il y a quand même beaucoup de maintenance et de savoir-faire en jeu. Et un certain nombre de choses à connaître et à faire correctement pour que cela soit efficace.
Car miner est extrêmement énergivore. Les stations de minage travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et ont besoin d'être refroidis pour éviter toute surchauffe. Et justement, le kilowattheure est en moyenne deux fois moins cher en Islande, où il coûte 6 centimes d'euros hors taxe, que dans l'Union européenne, selon les données d'Eurostat pour 2016. Ce qui en fait l'une des nations les plus compétitives derrière la Serbie, la Macédoine et la Bosnie, où était installé auparavant Genesis Mining. Johan Snorri Sigurbjörnsson est responsable du développement pour la compagnie d'énergie islandaise HS Orka.
Je ne dirais pas que les prix d'électricité en Islande sont les moins chers, parce que si c'était le cas, nous aurions 10 fois plus de centres de données et de fermes de crypto-monnaies. mais on offre des tarifs hautement compétitifs et prévisibles sur le long terme, même si beaucoup de ces compagnies ne pensent pas à 20 ou 40 ans, car les changements sont beaucoup trop rapides dans le secteur. En tout cas, l'indicateur d'efficacité énergétique est très bon en Islande grâce au refroidissement naturel.
La température extérieure est en effet d'environ 5 degrés Celsius sur l'île volcanique, ce qui ne signifie pas pour autant zéro dépense d'énergie, bien au contraire. Le vent polaire est aspiré par une batterie de ventilateurs, puis filtré et mélangé avec la chaleur que dégagent les ordinateurs pour maintenir l'air entre 5 et 25 degrés Celsius. Autant d'atouts qui conduit à un grand rush des mineurs vers l'île de glace et de feu, Johan Snorri Sigurbjörnsson.
Depuis un an, et particulièrement au cours des trois derniers mois, la demande a augmenté de façon exponentielle, mais nous ne pouvons plus satisfaire tout le monde. Gros avantage en revanche, nous sommes dans la position confortable de pouvoir choisir avec qui nous allons faire affaire. C'est une très bonne chose, aussi bien pour l'Islande que pour nous, en tant que fournisseurs d'électricité.
Howe Sorka se frotte les mains. Selon ses estimations, les trois plus grosses compagnies propriétaires de centres de données et fermes de crypto-monnaies devraient en effet consommer en 2018 plus d'électricité que les quelques 350 000 habitants du pays. London is the place for me. London, this lovely city. You can go to France or America, India, Asia or Australia, but you must come back to London City.
Le gouvernement de Theresa May n'avait vraiment pas besoin de ce nouveau tollé provoqué par le scandale de la génération Windrush et qui fait la une des journaux depuis deux semaines. Ces Antillais venus reconstruire le Royaume-Uni après-guerre pensaient être britanniques. Ils risquent aujourd'hui l'expulsion, les explications de Marie Billon.
Le 22 juin 1948, le navire Empire Windrush accoste à Tilbury, à l'est de Londres. 492 Jamaïcains arrivent au Royaume-Uni à l'appel du gouvernement pour participer à l'effort de reconstruction du pays après la Seconde Guerre mondiale. Nombre de ceux qui débarquent avec femmes et enfants ont d'ailleurs combattu dans l'armée britannique, car la Jamaïque est alors toujours une colonie de la couronne. Les passagers du Windrush sont les premiers à poser le pied sur le sol britannique, mais entre 1948 et 1973, 550 000 habitants des Antilles leur emboîtent le pas. Quelques années plus tard, le gouvernement décide qu'ils ont tous de fait la nationalité britannique, mais l'administration ne suit pas. Elle n'enregistre pas les membres de la Windrush Generation et leurs enfants. Puisque la carte d'identité n'existe pas au Royaume-Uni et qu'on ne demande un passeport que si on sort du pays, beaucoup ne font aucune démarche. Tout se passe bien cependant jusqu'aux années 2010, quand le gouvernement, sous l'impulsion de Theresa May, à l'époque ministre de l'Intérieur, décide d'instaurer des vérifications systématiques. Désormais, les agences immobilières, les hôpitaux, les employés doivent vérifier qu'une personne a le droit de résider ici. C'est ainsi que l'affaire Albert Thompson éclate au grand jour. Il a 63 ans, il va à l'hôpital un jour pour recevoir sa première séance de chimiothérapie pour un cancer de la prostate. Mais l'établissement la lui refuse. Il est ici illégalement, lui dit-on, et ce depuis près de 50 ans. Le scandale prend de l'ampleur rapidement. Des dizaines, voire des centaines de personnes sont menacées d'être déportées dans leur pays d'origine où ils ne connaissent parfois plus personne. Pour les associations, c'est une honte et selon une députée travailliste, c'est du racisme institutionnalisé. Le gouvernement fait son mea culpa, sauf qu'on apprend d'abord que l'administration a décidé en 2009-2010 de détruire les documents qui prouvaient l'arrivée légale de la génération Windrush, mais aussi que le ministère de l'Intérieur était au courant depuis longtemps des parcours de ces Jamaïcains. Downing Street a depuis promis de donner la nationalité britannique à tous les enfants de la Windrush Generation. Bref, de régler tout ça au plus vite et sans frais supplémentaires pour les victimes, voire avec des compensations, car certains ont déjà dépenser des centaines d'euros en avocat pour éviter d'être déporté.
Autre scandale, un énième scandale de pédophilie qui touche l'Église d'Irlande. Cette fois, c'est l'organisation des scouts qui est prise dans la tourmente. Une enquête vient de pointer des manquements dans la gestion de plusieurs accusations d'agressions sexuelles à l'encontre de cadres. En ligne de Dublin, on retrouve notre correspondant Julien Lagache. Alors Julien, l'enquête indépendante devait rester confidentielle, mais des fuites dans la presse ont révélé ses conclusions et provoqué de vives réactions. Quels sont ces dysfonctionnements dont on parle ?
Eh bien, d'après l'expert chargé de l'enquête, la direction de l'organisation scout irlandaise Scouting Ireland a montré une gestion très imprudente, voire irresponsable, d'accusations sérieuses d'agression sexuelle envers ses membres. À titre d'exemple, l'auteur de cette investigation cite le cas d'un responsable accusé en 2016 d'avoir violé une jeune chef scout 7 ans plus tôt. La plainte a été classée sans suite par la justice, mais l'homme a pu être réintégré immédiatement avant d'être même promu quelques mois plus tard, et ce contre l'avis de la police qui recommandait une audition préalable de probation. Idem pour un autre cadre accusé d'avoir violé un garçon de 12 ans en 2014. Ses parents avaient signalé à sa hiérarchie un comportement déplacé, mais cet homme aurait fait pression pour rester en place et il occupe d'ailleurs toujours son poste malgré une enquête judiciaire en cours sur ce cas.
De telles accusations, de ce type d'organisation, ça rappelle de mauvais souvenirs en Irlande.
Oui, et d'ailleurs dans ses conclusions, l'enquêteur Ian Elliott fait un parallèle avec les scandales répétés de pédophilie qui ont frappé l'église catholique dans le pays. Selon lui, l'église a été lourdement discréditée et mettra encore des années à laver sa réputation parce que sa hiérarchie n'a pas réagi aux accusations, qu'elle a couvert les ecclésiastiques mis en cause et tenté de se protéger elle-même davantage que les enfants. Un avertissement qui ne passe pas inaperçu de la part de celui qui a dirigé pendant 6 ans la cellule de réforme des codes de conduite et de protection de l'enfance au sein de l'église en Irlande, et il a pressé en novembre dernier la direction des scouts de conduire rapidement un audit complet de toutes les affaires passées qui pourraient encore impliquer des bénévoles ou des responsables en activité, audit qui n'a toujours pas commencé.
C'était Julien Lagache, notre correspondant à Dublin.
Une drôle de petite voix m'a réveillée.
S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
Hein ?
Dessine-moi un mouton.
J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé. Et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire.
Et on retrouve un peu de sérénité avec la voix célèbre de Gérard Philippe racontant Le Petit Prince. C'est le livre, le conte le plus lu et le plus traduit dans le monde, après la Bible, avec 170 millions d'exemplaires vendus. Le succès planétaire d'Antoine de Saint-Exupéry est sorti il y a 75 ans pour la première fois aux États-Unis, avant même sa publication en France, et il fascine toujours. À Lausanne, Katia Michel a rencontré Jean-Marc Probst, le plus grand collectionneur du Petit Prince au monde.
Dans l'élégant bureau de Jean-Marc Probst, plus de 4600 éditions du Petit Prince en 340 langues sont soigneusement alignées sur les étagères murales. Le Lausannois de 61 ans, chef d'entreprise par ailleurs, possède quelques perles rares, comme un exemplaire de la taille d'un dé à coudre qu'on ne peut lire qu'avec une loupe. Une édition en braille, une autre destinée aux autistes, et plus surprenant encore, un exemplaire du Petit Prince ayant appartenu à Che Guevara, portant la dédicace du révolutionnaire argentin. La passion de Jean-Marc pour ce petit blondinet tombé des étoiles débute il y a 40 ans lors d'un voyage à Tokyo, lorsqu'il découvre dans une vitrine une édition en japonais. Jean-Marc découvre alors un conte universel qui délivre des messages de vie apolitiques et sans couleur de peau, comme une sorte de trait d'union entre les hommes. Jean-Marc, qui dirige par ailleurs une entreprise d'importation de machines de chantier, l'affirme « Les idéaux du livre ont guidé sa vie ». Il veut alors promouvoir les valeurs du Petit Prince et crée pour cela une fondation.
L'histoire du Petit Prince, c'est un message universel, intemporel. Un des objectifs, c'est de faire connaître les messages du Petit Prince à d'autres populations, à d'autres personnes. Et c'est pour cela que j'entreprends chaque année de nouvelles traductions.
Le collectionneur a déjà financé des traductions en groenlandais, en tibétain, en somalie, mais également dans les différents dialectes suisses, en vaudois, en tessinois, et dans le canton de Fribourg, il existe désormais une version du Petit Prince. Désormais, la fondation de Jean-Marc se concentre sur les langues en voie d'extinction, comme le Wayeu, la langue d'un peuple nomade amérindien qui vit entre la Colombie et le Venezuela. Le Lausannois veut également créer à Lausanne un espace consacré à la littérature jeunesse et au Petit Prince pour transmettre aux jeunes ce message d'Antoine de Saint-Exupéry. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux.
À la réalisation, il y avait Richard Rifono. Vous pouvez évidemment nous suivre sur rfi.fr ou sur notre page Facebook.